Si ce podcast de Ciel et Espace vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou en le notant sur votre application d'écoute préférée. Retrouvez toutes les actualités du cosmos sur ciel-et-espace.fr.
Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Et si, finalement, nous étions seuls dans l'univers ? Depuis que l'humanité a pris conscience que les étoiles étaient d'autres soleils, elle s'est prise à rêver la pluralité des mondes. Il y aurait, ailleurs, d'autres terres, habitées tout comme la nôtre, d'organismes peut-être doués de conscience. L'idée qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers est aujourd'hui assez largement partagée chez les astrophysiciens. Dans « Seul dans l'univers », un passionnant essai publié aux éditions Odile Jacob, Jean-Pierre Bibring défend cependant un point de vue opposé. La leçon de plusieurs décennies d'exploration spatiale, celle aussi de la découverte des exoplanètes, plaiderait pour notre solitude cosmique. Bonjour Jean-Pierre Bibring.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur à l'Université Paris-Sud, chercheur à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, et on peut le dire un explorateur du système solaire depuis plusieurs décennies. Vous avez participé à plusieurs missions spatiales, je ne citerai que Mars Express ou Rosetta. Hein. Tout le monde se souvient de l'épopée de Philae qui a atterri sur la comète Churyumov-Gerasimenko en 2014, et dont vous étiez le co-responsable scientifique. Et vous signez donc aujourd'hui un long et précis argumentaire pour nous expliquer que nous serions uniques, que la vie serait unique. Alors ma première question, elle sera très simple. Est-ce que c'est une conviction que vous portiez déjà lorsque vous êtes engagé dans l'exploration du système solaire ?
Ah ben, la réponse est aussi simple, non. Parce que quand j'ai démarré, ce qui remonte quand même à quelques décennies, c'était après les missions Apollo, il y avait un dogme dominant et on s'y référait même sans s'y référer, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on ne se posait même pas la question. Ce qui était justement, la croyance, c'était vraiment une croyance plus qu'une conviction par approche scientifique, c'était qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de la vie ailleurs. Et donc, les premières missions, elles ont baigné là-dedans. Et c'est vraiment après plusieurs décennies d'exploration spatiale auxquelles j'ai eu la chance de contribuer que je me suis rendu compte que c'était en fait un dogme qui n'était étayé par aucune observation. D'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est que quand on pose la question aux gens, est-ce que vous croyez qu'il y a de la vie ailleurs, 98% des gens répondent oui.
C'est très populaire comme idée.
Oui, bien sûr, ne serait-ce que par humilité. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on est seul et voilà. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune observation qui le dise. Et d'ailleurs, il n'y a aucune observation qui dise le contraire. La question de savoir s'il y a de la vie ailleurs, elle ne relève pas encore. Elle commence juste à relever de l'approche scientifique. Et quand on commence à regarder ce que l'exploration spatiale a fait par rapport à la compréhension qu'on avait de ce qu'est la Terre, le système solaire, il y a donc quelques décennies, on s'aperçoit qu'il y a un chamboulement énorme qui est en train de se produire. Il y a des paradigmes parfois ancestraux qui sont en train d'être bousculés, et en particulier celui-ci. La question de savoir si la Terre a des équivalents ailleurs est en train de prendre une tournure tout à fait particulière. Non pas parce que simplement on explore le reste, mais parce qu'on comprend beaucoup mieux ce qui fait que la Terre est devenue la Terre.
Donc là, en fait, en réalité, il y a deux leçons que vous décrivez bien dans votre livre, deux leçons de l'exploration spatiale et de l'étude du système solaire, mais pas seulement, on va le voir. Donc on comprend bien qu'en fait, ce changement de paradigme, on peut dire, qui est en train d'arriver, enfin en tout cas, vous en êtes peut-être un précurseur, puisqu'encore une fois, l'idée qu'on soit seul dans l'univers, elle n'est pas encore tout à fait, elle n'est pas encore très populaire, c'est plutôt l'inverse qui fait le consensus aujourd'hui. Il faudrait éventuellement, évidemment, qu'on explique comment vous êtes arrivé à cette conclusion, parce que ça ne s'est pas passé comme ça en une journée.
Je dirais que la première chose qui est apparue quand on s'est mis à explorer le système solaire, mais depuis la Lune, du reste, jusqu'ensuite Mars, Vénus, les autres objets du système solaire, et puis les petits corps, les comètes et les astéroïdes, ça a révélé quelque chose dont on n'avait pas idée, qui est ce qui me semble être le premier paradigme fort qui a été modifié. C'est l'idée, non pas tant qu'il y a une pluralité des mondes, c'est-à-dire qu'on peut extrapoler ce que l'on connaît au reste simplement parce qu'on ne le connaît pas, mais il y a une incroyable diversité des objets. C'est vraiment ce concept de diversité qui me paraît le plus important. Ça paraît un peu banal maintenant de le dire parce qu'il commence à y avoir un consensus, mais ça commence à percoler sérieusement dans la communauté et bien au-delà que c'est la diversité qui frappe. Et c'est une diversité qui dit simplement que la Terre est très différente de Mars, différente des autres. C'est pas que la Terre est différente des autres qui seraient toutes les mêmes, c'est qu'il n'y a pas deux objets pareil, et on le dira probablement, depuis qu'on sait qu'il y a des exoplanètes, ce qui est remarquable, c'est que ça valide cette idée ancienne qu'autour des étoiles, il y a des planètes. et il fallait le valider. Donc ça, c'est majeur. Mais pour moi, le plus important, ce n'est pas tellement ça. C'est qu'il n'y a pas un seul système qui ressemble au nôtre. Et que de même qu'on commence à voir d'autres systèmes, on s'aperçoit que le nôtre est différent des autres qui eux-mêmes sont différents entre eux. C'est-à-dire que la diversité maintenant s'extrapole pour le coup du système solaire à l'ensemble des systèmes. Et la chose importante, je crois, qui est en train de se passer, c'est que non seulement se révèle la diversité, mais se révèlent les raisons de cette diversité. Et maintenant qu'on commence à comprendre ce qui fait que la Terre est devenue la Terre, que Mars est devenu Mars, que le système solaire est devenu ce qu'il est, etc., différent de tous les autres, on commence à comprendre que ça relève non pas de nouvelles lois de la physique, mais de quelque chose qui ressort du déterminisme des lois avec l'intrusion dans ces évolutions de phénomènes aléatoires que l'on commence à voir, qui ont l'allure d'être aléatoires parce qu'ils ne sont pas prédictibles, mais parce qu'ils sont extraordinairement nombreux et qu'un rien aurait modifié ces événements et modifié l'avenir de tous les objets dont ils sont les sculpteurs, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a la probabilité de trouver ailleurs cette séquence d'événements aléatoires devient beaucoup trop faible par rapport au nombre de candidats, fût-il des milliards de milliards.
Alors ça, on est déjà dans les raisons de cette diversité, mais restons, si vous le voulez, un petit peu sur le constat, et en particulier, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Mars, parce que vous êtes un grand spécialiste de l'observation de Mars. On peut parler de Mars Express, évidemment, d'autres instruments Omega qui a révélé les minéraux hydratés de la planète rouge. Alors il y a cette question de l'eau, et Mars, on l'a longtemps vu comme une potentielle jumelle de la Terre. En tout cas, on a beaucoup espéré y découvrir la vie. Vous qui avez vécu cette exploration de près, vous décrivez un changement de paradigme assez radical sur Mars.
Oui, d'une part, cette exploration, elle n'est pas que passée, elle est présente et on continue à explorer Mars actuellement et à envisager des missions pour aller encore plus loin dans cette exploration. Donc, c'est effectivement un cas d'école très intéressant parce que Mars, depuis très longtemps en fait, en tout cas depuis le 19e siècle et probablement avant, a été conçu comme, dans ce dogme de la pluralité des mondes, comme l'objet le plus accessible qui aurait pu abriter du vivant. Et quand on a démarré l'exploration spatiale, en particulier en Europe, avec la mission Mars Express, effectivement, ce qui dominait, c'était cette idée que si Mars est rouge, c'est qu'elle était oxydée, si le fer est devenu ferrique, c'est qu'il y a eu de l'eau, et s'il y a de l'eau, il y a de la vie. Et donc, les missions étaient vraiment là pour essayer de rechercher si les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire s'il y a eu de l'eau, ben, il y aurait eu de la vie. Et c'est pour ça que ces missions ont été faites. Et je dois dire qu'au fur et à mesure qu'on s'est plongé dans cette exploration et qu'on a eu des résultats qui ont été assez marquants, on s'est aperçu que certes, il y a eu une évolution, mais qu'elles ont très rapidement divergé entre la Terre et Mars, et que cette coévolution auquel on pensait n'a pas existé très longtemps en tout cas, et qu'en tout état de cause, en particulier la couleur rouge de Mars ne traduit pas le fait, ça traduit bien le fait que du fer a été oxydé, mais pas par de l'eau. On a même montré que si on veut rechercher des endroits où il a pu y avoir de l'eau stable à état liquide suffisamment longtemps, c'est-à-dire quelques dizaines ou centaines de millions d'années, c'est très tôt dans l'histoire de Mars et dans des terrains qui ont préservé cette information-là. Donc c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'actuellement on essaye de convaincre tout le monde qu'il faudra explorer ces sites. Et à vrai dire, ExoMars, qui est la sonde qu'on espérait envoyer il y a quelques semaines, aurait été dans l'endroit le plus ancien, le plus propice pour avoir hébergé des conditions où au moins l'eau était à l'état liquide. Mais en même temps, on a expliqué, en tout cas compris, semble-t-il, pourquoi, pour autant que Mars aurait eu des conditions de stabilité de l'eau liquide, d'une part, son évolution a divergé assez rapidement parce qu'elle n'a pas pu la maintenir longtemps et on commence à comprendre pourquoi. Et ensuite, et c'est peut-être le plus important, l'eau liquide ne suffit pas à justifier qu'il y a eu de la vie. On commence à comprendre, mais c'est, un deuxième volet de cette exploration, que l'évolution de la chimie qui a donné le vivant sur Terre, il a bien sûr bénéficié du fait qu'il y avait de l'eau liquide stable à la surface de la Terre, mais ce n'est pas l'eau en soi qui était importante, c'est tout ce qu'il y avait dedans, tous les autres ingrédients. Et la grande recherche qu'on fait sur Mars maintenant, c'est justement celle-ci. Quels étaient les ingrédients qui étaient dans l'eau martienne, peut-être différents de l'eau terrestre, qui aurait conduit à une évolution qui, en tout état de cause, n'aurait pas conduit à ce qu'on appelle le vivant, mais des formes intéressantes de chimie organique.
Donc on a une transformation complète des questions qui se posent sur Mars. On est parti un petit peu donc d'une façon un peu naïve, on pourrait dire. Et donc cette question de l'eau est totalement revisitée par l'exploration. Donc là, un exemple typique de cas où on a voulu plaquer un raisonnement terrestre finalement sur un autre monde, et vous nous dites non, en fait, il n'y a pas de pluralité, il y a une diversité. Mars, c'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Vous avez cité les exoplanètes et évidemment, dans votre livre, on comprend bien que finalement, ce qui vous a le plus frappé dans ces découvertes, on peut revenir sur 51 Pégase, donc la première planète extrasolaire. Magnifique découverte, évidemment, de découvrir une planète autour d'une autre étoile, mais plus étonnant encore, c'est une planète à peu près comme Jupiter qui tourne en 4 jours autour de son étoile. Et là, on met le doigt vraiment sur quelque chose qui va se confirmer par la suite, c'est que on a des mondes extrêmement divers dans le ciel.
Absolument, ça a été aussi pour moi, comme pour tout le monde, en fait, une révélation progressive. C'est vrai qu'on a tous applaudi, et on a bien fait de le faire, cette extraordinaire découverte de Mayer et Queloz, parce qu'il faut se rendre compte que cette découverte, elle intègre des progrès technologiques absolument ahurissants, quoi. Et d'ailleurs, c'est remarquable que ça soit fait d'ailleurs en France, à l'Observatoire de Haute-Provence, avec des instruments faits en France pour l'essentiel par ces deux scientifiques suisses. C'était remarquable d'arriver à démontrer quelque chose comme cela, parce que ça suppose des instruments absolument remarquables à nouveau, auxquels bien sûr ces deux scientifiques ont contribué, Et ils ont été pour cela honorés du prix Nobel en 2019, si je me souviens bien.
Tout à fait mérité.
Qui était incroyablement... Pourquoi ? Tout simplement parce que plein de gens avaient proposé depuis l'Antiquité, et surtout au XVIIIe et XIXe siècle, que quand on forme une étoile, on forme aussi des planètes. Mais il y avait d'autres qui proposaient tout à fait d'autres choses, et une validation scientifique est requise pour ce genre de choses. Ils ont fourni la validation scientifique. Donc ça a été absolument essentiel. C'est ça qui a été couronné. Mais comme je l'ai dit, ce qui me semble le plus intéressant, c'est effectivement que ce qu'ils ont découvert, c'est un objet dont on n'avait aucune idée qu'il puisse exister de cette sorte. C'est-à-dire une planète géante qui est 10 fois plus proche de son étoile que ne l'est Mercure du Soleil. C'est-à-dire qu'il y a une température très élevée. Or, dans les modèles que l'on avait, et qu'on a toujours d'ailleurs, de formation des planètes géantes, pour qu'une planète devienne géante, il faut qu'elle ait un noyau suffisamment massif pour pouvoir avoir accrété du gaz avant que le gaz ait été soufflé par l'étoile, c'est-à-dire très rapidement. Et pour fabriquer un noyau massif, bah, il faut être loin de l'étoile pour une raison simple, c'est que trop près, tous les composés volatiles ne sont que volatiles, l'eau, le gaz carbonique, le méthane, et il n'y a pas de masse suffisante pour accréter des noyaux qui fassent 10 ou 20 fois la masse de la Terre en quelques milliers, sinon millions d'années. Quand vous êtes loin, tous les composés volatiles, c'est des glaces, et là, tout d'un coup, il y a des masses suffisantes pour les accréter. Donc le fait qu'on ait dans notre propre système des planètes géantes loin était expliqué comme cela. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on trouve ? Une planète géante très proche de son étoile. Et il a fallu pour cela remonter à des idées qui avaient été d'ailleurs proposées, surtout par Peter Goldrush et André Braik, après les observations de la sonde Cassini, et des anneaux très particuliers qui avaient des festons, etc., qui ont changé notre manière de voir la gravité, en fait, tout simplement, dans ce genre de système complexe. Il fallait proposer, et c'est ça qui a été fait à propos des exoplanètes, que les exoplanètes que l'on voit n'ont pas été formées là où on les voit, et qu'elles se forment effectivement loin, pour les raisons que j'ai dites, mais qu'entre le moment où on les voit et le moment où on les observe, elles ont pu se déplacer, migrer, comme on dit. C'est la fameuse théorie de la migration, qui est une théorie relativement ancienne, mais qui a été remise à l'ordre du jour par l'observation des exoplanètes. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que la migration peut prendre... C'est un processus parfaitement générique, partout ça migre, mais il suffit d'un tout petit quelque chose pour que dans le disque initial, puisque c'est le disque tout d'un coup qui est responsable de cette migration, on aboutisse à des situations finales qui d'un cas à l'autre sont totalement différentes. Et je ne peux pas ne pas dire bien sûr que la grande question qui s'est posée il y a une dizaine d'années, c'est qu'est-ce qui fait que notre système, dans notre système, Jupiter et Saturne sont très éloignés, ce qui a permis que les planètes telluriques existent, parce que une des choses de la migration importante, c'est que quand une planète géante se met à migrer vers l'intérieur, elle balaye tout, elle nettoie la cavité. Si elle va trop près de l'étoile, il n'y a plus rien pour former des planètes comme la nôtre. Qu'est-ce qui s'est passé dans le système solaire ? Est-ce que notre spécificité, c'est que Jupiter et Saturne n'ont pas migré ? Eh bien, ce que le groupe de Nice d'Alexandre Morbidelli a montré il y a une dizaine d'années déjà, c'est que non, pas du tout. La migration a aussi probablement, là je dis probablement parce qu'il faut encore revalider et tout ça, mais affecté notre propre système. Mais la migration était tout à fait particulière. Et comme on le sait bien maintenant, je crois, dans la communauté française, c'est Jupiter qui est rentré le premier, qui s'est arrêté à un moment donné, en confinant le matériau à peu près au niveau de l'orbite, en dessous de l'orbite de la Terre. Et il a été rattrapé par Saturne. Et c'est le rapport de masse entre Saturne et Jupiter qui a fait que ce système s'est bloqué, comme on dit, en résonance, Saturne faisant deux tours quand Jupiter en faisait trois, et que le rapport de masse a fait que, au lieu de continuer la migration vers l'intérieur, ils ont fait une migration vers l'extérieur, maintenant ce disque confiné au sein duquel les quatre planètes telluriques se sont formées.
Donc on a un exemple incroyable de migration,
en fait.
Et de contingence claire. Ce que nous disait la découverte de 51 Pégase B, c'est qu'effectivement il fallait imaginer un mécanisme de migration, vous l'avez bien expliqué. Ça s'est confirmé dans les découvertes ultérieures, c'est-à-dire qu'on a 5000 exoplanètes au compteur aujourd'hui, des centaines de systèmes exoplanétaires, tous très très différents. Il faut aussi invoquer la migration et des événements tout à fait, non pas exotiques, mais contingents, comme vous l'avez dit. Et pour le système solaire, c'est aussi le cas.
Exactement, c'est exactement ça l'idée. C'est qu'il aurait suffi que nos disques soient un tout petit peu différents. Saturne un peu moins massif ou un peu plus massif. Moins massif, il n'aurait pas empêché Jupiter de continuer et on ne serait pas là pour en parler parce qu'il n'aurait plus assez de masse pour le faire. Plus massif, les deux auraient continué vers l'intérieur. Et donc, c'est un rapport de masse très particulier qui dérive. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas un grand dessin. C'est notre disque qui était fait d'une telle sorte que la migration a pris cette forme-là, très particulière. Et on s'aperçoit effectivement, comme vous l'avez dit, que maintenant qu'on peut explorer des centaines de systèmes équivalents, eh bien, ils sont tous différents pour cette raison-là. Je ne dis pas que la migration est le seul paramètre qui a joué, mais on commence à décrypter les différents types de processus qui, en tant que processus, à nouveau, sont très banals, très génériques, mais qui à chaque fois prennent une forme particulière qui explique un résultat final, qui est en particulier la distribution en masse des quatre planètes, qui a été le point de départ d'ailleurs de l'équipe de Nice. Ils se sont dit, comment ça se fait que Mars soit tellement peu massif par rapport à la Terre, 10 fois moins, alors que dans un disque, l'accrétion dans un disque à peu près homogène ferait que la masse devrait croître de Mercure vers l'extérieur. On devrait avoir un Mars au moins aussi massif que la Terre, il est 10 fois moins. Et c'est pour répondre à cette question-là qu'ils se sont aperçus qu'effectivement, il y a eu une migration très particulière.
Donc là, on vient de mettre le point sur l'une des causes de cette diversité dont on commence à prendre toute la mesure. Il y en a d'autres, en particulier en ce qui concerne la Terre. Dans votre livre, vous développez assez longuement la question de l'impact qui a formé la Lune. J'aimerais bien qu'on développe un petit peu ça, parce que là aussi, encore un événement tout à fait contingent qui a conduit à la Terre telle qu'elle est et qui aurait très bien pu ne pas se produire.
Absolument. Alors, cette histoire de l'impact, est, je le trouve aussi passionnant parce qu'il a été proposé avant même que l'on sache que l'évolution turbulente du système solaire fabrique des impacts géants très tôt dans son histoire. Ça a été proposé dans les années 70, à la fin des années 70, lorsque les échantillons lunaires revenant des missions Apollo et Luna soviétiques, on s'est aperçu qu'aucun des trois modèles qui avaient été proposés à l'époque pour former la Lune, d'où vient la Lune, ne collait avec les mesures que l'on faisait sur les échantillons eux-mêmes. Il a fallu en inventer un quatrième, et le quatrième, c'est celui-ci, c'est celui d'idée que la Terre a été frappée très massivement. C'était proposé à la fin des années 70, je crois que c'est en 75 qu'il y a eu le premier papier, par Hartmann, Bill Hartmann, et il fallait que cet impact ait des caractéristiques très particulières pour que résulte de tout cela un énorme disque de matière circumterrestre dans lequel la Terre s'est réaccrétée. Mais ça n'a pas été plus loin que ça à l'époque, parce que le but c'était d'expliquer la formation de la Lune. Ce qui est arrivé après, à partir des années 80-90, et singulièrement à partir des années 90, c'est qu'on s'est aperçu que cet impact-là a eu des effets majeurs sur l'évolution de la Terre. D'abord par la fabrication de cette Lune, et je dis bien de cette Lune parce que des Lunes, il y en a partout dans l'espace. La plupart d'ailleurs probablement formées par des choses équivalentes à des impacts, même Phobos et Deimos sur Mars, c'est ça. Mais il n'y en a aucune qui a un rapport de masse par rapport à sa planète qui donne des effets gravitationnels du type de ce que la Lune fait sur la Terre. Et ces effets gravitationnels, on les connaît bien maintenant. Bon, on connaît bien sûr les marées océaniques, mais ce que Jacques Lascar, l'Observatoire de Paris, en 93, je crois, a proposé pour la première fois, c'est quelque chose d'absolument spectaculaire, c'est que c'est la Lune qui a stabilisé ce qu'on appelle l'obliquité de la Terre. L'obliquité, c'est cet angle que fait l'axe de rotation de la Terre, l'axe des pôles, par rapport en 24 heures sur elle-même, par rapport à la perpendiculaire au plan de l'écliptique, qui fait à peu près 23 degrés, on le sait bien, la latitude des tropiques. Pour toutes les autres planètes, s'il n'y a pas une Lune stabilisatrice, cet angle-là change au cours du temps. Il n'y a aucune raison pour qu'il reste à 23 degrés. Et on voit bien ce que donnerait un effet climatique si tout d'un coup la direction des pôles se baladait vers le Soleil, par exemple.
On a un exemple avec Mars, d'ailleurs, je crois.
Alors, on a un exemple avec Mars, absolument, mais d'une manière générale. Et d'ailleurs, on a deux planètes qui sont dans le sens rétrograde, c'est simplement que ça a basculé de plus de 90 degrés. Et si les calottes polaires, tout d'un coup, devenaient dans la direction du Soleil, il n'y aurait plus de calottes polaires, les océans monteraient, ou à l'inverse, ils geleraient complètement. Bref, le climat terrestre a été entièrement dépendant de cette stabilité à un degré près sur plusieurs milliards d'années. C'est absolument incroyable. Eh bien, c'est cet impact-là qu'il a fait. Vous auriez eu un impact d'un objet un peu moins massif ou un peu plus massif, un impact plus rasant, d'une composition différente, on ne serait pas là non plus pour en parler. Mais il y a plein d'autres effets de cet impact dont on n'a pas encore pris la mesure, je crois. J'en parle un peu dans ce livre. Par exemple, la seule présence des océans terrestres. D'où viennent nos océans? D'où vient l'eau des océans? Pourquoi ils sont stables et depuis combien de temps? Je pense qu'il faut aussi comprendre que cet impact a été majeur pour fabriquer un magma qui, en se refroidissant, a fait remonter une partie de l'eau qui était piégée pendant l'accrétion elle-même et qu'elle a trouvé cette eau à la surface, les conditions atmosphériques résultant de l'impact qui font qu'on était dans la stabilité de l'eau liquide au-dessus de 0 degré, en dessous du point critique. Et ça, depuis que l'impact a eu lieu, c'est-à-dire qu'on a toutes les raisons de penser qu'on a des océans stationnaires et stables, pérennes depuis peut-être 4,3, 4,4 milliards d'années. Et pour autant que ça a été fondamental pour l'évolution vers le vivant, bah le vivant, l'ADN lui-même a duré non pas plus d'un milliard d'années, mais peut-être que quelques dizaines ou centaines de millions d'années. Et on est déjà avec l'apparition de formes qu'on pourrait appeler vivantes, bien avant ce qu'il a proposé.
Donc on comprend les arguments. C'est toute la première partie de votre argumentation sur le fait que la vie soit unique, c'est cette unicité, alors sans hiérarchie, vous le dites bien, hein, de chaque corps céleste, de chaque planète, évidemment. Donc une grande, grande diversité. Donc la Terre est unique pour vous. Et vous allez quand même beaucoup plus loin. Parce qu'encore une fois, je pense que finalement, comme vous l'avez expliqué avec les découvertes récentes, maintenant, je pense que la plupart des astronomes s'accorderaient, comme vous, à considérer que la Terre, finalement, c'est une planète singulière, mais pas plus singulière qu'une autre, peut-être. Vous allez quand même plus loin, puisque vous en tirez la conclusion, et vous allez nous expliquer comment vous arrivez à ce raisonnement, à ce résultat, que la vie elle-même est unique, que le vivant est unique, et que le vivant est propre à la Terre.
Voilà. D'abord, pour bien comprendre la démarche, il faut comprendre en quoi... Pourquoi on peut se permettre de dire que la Terre est unique? La Terre n'est pas unique différemment de ce que l'on pensait avant, en sens où si on considère que l'importance d'une planète, c'est le mot planète lui-même, c'est un objet d'une certaine taille qui gravite autour d'une étoile, eh bien des objets de la même taille, à peu près à la même distance que la Terre du Soleil, on en trouverait. Donc si pour nous une exotère, c'est chercher un objet comme ça, bien sûr qu'il y en a. Donc des Terres vues comme cela, il y en a. Ce qui est nouveau, c'est qu'on comprend que la Terre et les propriétés de la Terre ne dépendent pas que de ces propriétés-là, c'est-à-dire sa taille et sa distance à l'étoile. Ne serait-ce que la température à la surface de la Terre, ce n'est pas que la distance à l'étoile, c'est la composition de l'atmosphère qui, elle, met en cause plein d'autres choses. La radioactivité qui recycle un certain nombre de choses, etc., les constituants atmosphériquement. Et donc, c'est la connaissance de plus en plus précise de ce qu'est la Terre, dans sa définition même, qui permet de dire... Pour arriver à une Terre qui inclut tout ce que l'on voit maintenant, sa couverture océanique, j'en dis deux mots, la couverture en nuages, cette atmosphère incroyablement fine qui a des propriétés évolutives du reste, en interaction avec sa biosphère, bref, tout ça fait que ça suppose une succession d'événements très importantes qui ont fabriqué des propriétés tout à fait particulières. Et quand on regarde maintenant la probabilité que cette succession, dans l'ordre en particulier qu'elle a eu sur Terre, se passe ailleurs, on se dit là, ça ne devient pas possible, même s'il y a des milliards de milliards. Et une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit, mais parmi ces propriétés, est-ce qu'il n'y en a pas une auquel on se raccroche toujours, qui est le vivant, qui serait justement aussi une des propriétés que la Terre a fomentées dans son évolution particulière? En d'autres termes, est-ce que le vivant n'est pas intimement lié à l'évolution de la Terre, qui elle-même est incroyablement spécifique à cause de la contingence de tous les phénomènes qui sont arrivés? Et ça a débouché pour moi, en tout cas, sur une recherche tout à fait particulière, autour de ce concept du vivant. Qu'est-ce que c'est que le vivant? Est-ce que le vivant, c'est une propriété générique dans l'univers, qui est simplement une étape de l'évolution, auquel on ne peut pas échapper, parce que les atomes donnent des molécules, organiques, et à un moment donné, les molécules organiques...
Un impératif cosmique.
Comme ça a été proposé pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a... Et d'ailleurs, on voit encore dans énormément de livres des évolutions, dont je parle pas mal dans ce livre, qui sont représentées par une flèche... où on met progressivement des molécules organiques, du vivant, et en général, on met le cerveau humain au sommet de tout ça, parce qu'on fabrique des critères hiérarchiques qui mettent le cerveau humain en particulier au sommet d'une échelle avec une flèche. Je pense que c'est fondamentalement faux que l'évolution, à tout niveau, n'est pas fléchée. Darwin lui-même expliquait qu'effectivement, l'évolution du vivant, ça ne va pas quelque part, il n'y a pas la volonté d'aller quelque part, même ce que les physiciens souvent disent, on va du simple vers le complexe, non. Il y a des échelles de complexité qui ne mettent pas du tout ni le vivant ni le cerveau humain au sommet de cette échelle-là. Et donc, qu'est-ce qui fait, d'une part, que l'on le veuille ou pas, on est attiré par cette idée de mettre la vie comme une propriété générique et qu'on aurait sur Terre une forme particulière de quelque chose qui existe aussi ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'on souhaite cela, quelque part, en tout cas dans nos sociétés, par rapport à une vision plus objective, je dirais, plus scientifique, qui verrait que le vivant n'est pas quelque chose qui est la forme particulière sur Terre d'un vivant qui existerait aussi ailleurs, mais qu'il n'y a pas de forme de vie et que le vivant est la forme particulière d'une évolution de la matière organique qui a pris cette forme-là sur Terre, mais qui ailleurs va prendre d'autres formes. Et à nouveau, il n'y a pas de hiérarchie, c'est pas que la Terre est mieux que Mars, c'est pas que la vie est mieux qu'une autre forme de chimie organique, c'est simplement que on a fabriqué nous-mêmes nos émerveillements à partir de ce que l'on connaît, c'est la biologie terrestre, et qu'on a du mal à s'extraire de ce paradigme qui, lui, pour le coup, est vraiment ancestral, que la vie est un donné, c'est une donnée, il y a du vivant et du non-vivant, il y a une différence entre une pierre et un arbre. Et quand on se réunit avec des biologistes autour d'une table pour se dire « mais quel est le principe qui serait un principe de vie qui pourrait se retrouver ailleurs ?», on bute assez rapidement sur la définition du vivant. Et il faut bien voir que la notion de vivant existait dans l'Antiquité. Il y a un mot pour le vivant chez les Grecs et probablement chez les Égyptiens. Parce que justement, on n'avait aucun moyen d'expliquer autrement qu'un arbre, c'est différent d'une pierre. Eh bien, on a conservé ces mêmes concepts en essayant maintenant de leur donner une signification scientifique. La biologie a essayé de meubler cette distinction entre le vivant et l'inerte, mais on bute sur un mur quelque part. Parce que le mur, c'est que s'il y a une propriété du vivant, si on a été capable de la définir comme une propriété générique, à nouveau, qui peut se retrouver ailleurs sous d'autres formes, il faut bien que sur Terre, comme ailleurs, elle est émergée d'un monde où elle n'est pas présente. Et donc, il y aurait tout d'un coup génération spontanée d'une propriété qui n'existe pas dans un bloc qu'on unifierait comme le non-vivant, l'inerte, par rapport à un bloc qu'on unifierait comme le vivant. Eh bien, d'une part, cette propriété, il est très difficile de l'isoler. Certains parlent de l'apparition de l'ADN, par exemple, et on dit à partir de l'ADN. Mais l'ADN résulte aussi d'une incroyable chaîne d'évolution et qui d'abord a fait que l'ADN est relativement récent, et tout ce qui s'est passé avant, c'était quoi alors? S'il y avait des bactéries pendant 2-3 milliards d'années, comme on dit, c'était pas du vivant, et il ne s'est pas passé de modifications, d'adaptations successives, etc. Et cette génération spontanée pose un vrai problème, et quand on y réfléchit un petit peu, ça pose la question même de la notion d'origine. À un moment, on parlait de l'origine de l'homme, mais on sait bien que ça n'a pas de sens, il n'y a pas un jour il y avait l'homme, et que la veille il n'y avait pas l'homme. On sait bien qu'il y a une évolution continue, qui est le fait non pas de hasard, mais d'événements très particuliers. S'il n'y avait pas eu le soulèvement de l'Afrique orientale, il n'y aurait pas eu la nécessité pour les quadrupèdes, etc., de devenir nopipèdes. Donc, chez les hominidés, il y a une succession continue. Et ce processus, je pense, c'est le même dans l'apparition d'une forme particulière de chimie organique qui est le vivant sur Terre. Quand on regarde effectivement l'évolution de la matière carbonée, depuis le moment où le carbone est formé dans les étoiles, puis ensuite va être incorporé dans des nuages, ces nuages vont s'isoler à un moment donné, tourner, etc., et fabriquer ce qu'on a vu avec Rosetta et Philae, des grains carbonés. Il faut bien voir que la grande nouveauté dans la compréhension du système solaire de cette mission, c'est que les comètes, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas essentiellement de la glace, même s'il y a suffisamment de glace, 15-20% peut-être, pour faire les queues quand ça sublime. Non, l'essentiel du matériau, du noyau, c'est de la matière carbonée. C'est des grains, même de plusieurs millimètres, qu'on voyait sur nos images, qu'on a commencé à analyser. Et maintenant qu'on a des retours d'ailleurs d'échantillons équivalents, en particulier avec la mission Hayabusa 2 et bientôt avec OSIRIS-REx, mais on le fait avec Hayabusa 2, on s'aperçoit qu'effectivement cette matière carbonée, c'est ça qui est génial avec la mission Hayabusa, elle a gardé ses vertus initiales. Eh bien on s'aperçoit que cette matière carbonée, même si elle a des choses qui ressemblent à ce qu'on trouve partout avec du carbone, de l'oxygène, elle a aussi, très vraisemblablement, c'est ça moi qui m'a frappé, des particularités qui sont liées à la manière particulière que le soleil, à un moment donné, a eu de s'allumer, d'irradier une partie de ce nuage et de fabriquer des groupements fonctionnels avec un peu de chiralité, des excès comme ci plutôt que comme ça, qui fait que ces grains carbonés, contrairement à ce qu'on pense, ils n'étaient pas les mêmes partout, ils étaient très contingents à la manière dont notre disque a évolué. Et quand des grains comme ça sont tombés dans les océans terrestres, ce n'est pas qu'ils sont tombés dans de l'eau, parce qu'à nouveau, l'eau, ce n'est pas très habitable. Vous mettez un poisson dans un aquarium, il n'y a que de l'eau, il crève. Non, dans cette eau, il y avait des cations, des enzymes, des catalyseurs, tout un tas d'ingrédients qui étaient très liés à la manière dont la Terre avait évolué. Un peu plus de calcium, un peu plus de fer, un peu moins de molybdène, un peu plus de ceci, qui ont favorisé des réactions très particulières compte tenu de ce qu'étaient ces grains carbonés, qui ont probablement d'ailleurs donné d'abord des membranes pour essayer d'isoler des petits vésicules dans lesquels l'eau, pour le coup, c'est létal. Hein, l'eau, ça dilue trop. Il faut empêcher l'eau d'agir. Eh bien, voilà, il y a une succession comme ça de choses qui a conduit à des réactions qui progressivement ont donné ce qu'on appelle le vivant sur Terre.
D'ailleurs, vous avez une phrase dans votre livre, vous dites « l'immersion est devenue ensemencement », c'est exactement ça.
Absolument, c'est le fait d'être dans l'eau a fait que progressivement on a favorisé des réactions qui ont conduit à un certain nombre de choses. Mais vous voyez qu'il n'y a pas d'origine de la vie, il n'y a pas une réaction particulière dont on peut dire « celle-là, elle va farmer quelque chose que… » Quand vous avez A plus B donne C plus D, le C, il n'existait pas avant, mais des C, il y en a eu d'une manière multiple dans l'évolution. Et je pense qu'on ne peut pas dater une époque particulière. Et il y a un livre que je recommande dans le mien, d'un philosophe qui s'appelle François Julien, avec deux L, et qui est remarquable. Il montre qu'effectivement, notre mode de pensée adore d'abord unifier les choses, et puis globaliser les choses. Souvent d'une manière binaire, le normal, la normale, le beau, le mal, etc., le vivant, le non-vivant, en mettant l'accent sur des globalités, mais qui en fait ne font que masquer la diversité de chacun de ces choses-là. Ce philosophe-là, après avoir travaillé sur la philosophie grecque, a travaillé sur la philosophie chinoise, pour des raisons personnelles, et il a montré que chez les Chinois, c'est exactement le contraire, c'est les transitions qui comptent. Et le petit livre dont je parle, c'est un livre qui s'appelle « Les transitions silencieuses », qui est absolument passionnant. Il montre que justement, ce qui compte pour eux, et je crois que la transition de l'inerte vers le vivant, c'est justement ça qu'il faudrait prendre en compte, c'est que c'est un continuum de transition, mais l'important qu'on rajoute, c'est qu'à chaque étape de ce continuum, il y a des bifurcations possibles, et c'est l'environnement, le contexte, le contingent qui va décider si on va dans une direction ou l'autre. Et quand on voit la somme de tout ce qui fait qu'on est arrivé au vivant tel qu'on le voit sur Terre, avec des trucs incroyables, les ribosomes, des protéines incroyables qui sont… Vous ne fabriquez pas ça simplement en modifiant un petit quelque chose.